Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez vu, il fait froid en ce moment. I Feel Good, le but du jeu, c'est de partager les ondes positives d'un invité. Lui, en ce moment, quand il y a grand froid, il est sur le front. Enfin, vous savez, il est sur le front, quel que soit le temps. Il s'occupe avec son association de la grande pauvreté dans Nancy. On a déjà eu l'occasion d'accueillir des personnes accueillies. On a déjà eu l'occasion dans I Feel Good de recevoir aussi une directrice artistique, on va dire, qui a accompagné un projet culturel. On n'a jamais eu l'occasion d'avoir le directeur général. La parole aujourd'hui à Rémi Bernard. So good, so good, I got you. Qu'est-ce que je suis heureux de t'accueillir, Rémi, bonjour.
Merci, merci de m'avoir invité, bonjour à toutes et tous.
Alors on va faire comme un bon média, on va dire, ah bah c'est le plan grand froid, donc on va parler des pauvres dans la rue.
Les pauvres dans la rue, donc oui, il y a le plan grand froid depuis maintenant une semaine. Température basse, alors plan grand froid, ça signifie qu'on doit répondre positivement à toutes les demandes de mise à l'abri et d'hébergement, donc via le 115. Donc ça nécessite une organisation un peu renforcée, d'ouverture de places supplémentaires, de vigilance effectivement au niveau des maraudes du SAMU social, pour être sûr que toutes les personnes qui en aient besoin et qui en fassent la demande, effectivement, puissent en bénéficier, oui.
Donc une pression du temps, mais du temps dans tous les sens du terme, parce qu'il y a le temps, la température, la météo, et puis il y a le temps qui passe aussi. Et derrière le temps qui passe, la mort, elle est à tout moment, quelle que soit la température.
Quelle que soit la température, oui, tout à fait.
La distinction, l'accompagnement de tout cela.
Alors, aujourd'hui, effectivement, donc, la pression de la température est d'une certaine manière la pression de la société institutionnelle. Les morts dans la rue sont additionnés. Il y a une association qui fait que ça en France, alors que tous les décès dans la rue, déjà, ne sont pas en hiver, nécessairement. Auparavant, c'était même l'inverse. Et puis, pas nécessairement, d'ailleurs, toujours du froid. Donc, il y a une vigilance et une pression, effectivement, importante sur les équipes. Ce qui est aussi, je pense, à noter, c'est peut-être un changement de perception parmi nos concitoyens. Il y a à peu près 20 ans de ça, un plan grand froid, un dispositif hivernal, ça faisait la une des médias. Il y avait très souvent une page complète dans l'Est républicain, ce qui est beaucoup moins le cas. Non pas, ça témoigne non pas d'un désintérêt des journalistes, je pense, mais peut-être que c'est une problématique qui est, je pense, parmi nos concitoyens, au second plan. Alors ça s'explique, hein, d'un point de vue sociétal, du point de vue des malaises qui peut y avoir dans notre société actuelle. Mais en tout état de cause, il y a eu un changement, effectivement, de perception et de nos activités et des personnes dont on s'occupe.
Peut-être potentiellement très grave ce que tu dis d'une évolution, hein. C'est bien dans ce sens-là que tu veux aller.
C'est bien dans ce sens-là que je veux aller, oui, tout à fait. Oui, c'est grave. Le vivre ensemble, la société fragmentée, et très clairement, effectivement, je pense qu'il y a des choses à retrouver en termes de cohésion, effectivement, sociale, en termes d'intérêt pour l'autre, en premier lieu, bien évidemment, pour ceux qui sont en difficulté. Mais c'est un indicateur, je pense, du repli du citoyen français sur sa condition, sur son insécurité. Et on l'observe également dans les chiffres. Hein. Il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps, donc, dans l'Est républicain. Les deux tiers de la population française, effectivement, se sentent en insécurité, et individuelle et collective. Donc, ça fragmente, je pense, effectivement, encore un peu plus les fondements de notre collectif, oui.
Vivre dans la rue, ça peut être un choix. Parfois non. Explique-nous un petit peu, nous qui peut-être ne connaissons pas la réalité de la rue, qui vit dans la rue aujourd'hui et pourquoi et comment on peut ou pas accompagner.
dans la rue, on retrouve plein de situations différentes, plein de trajectoires de vie différentes, des personnes qui sont ancrées durablement dans la rue. On retrouve aussi à certains moments, pour des problématiques d'accident de la vie, tout simplement, des familles, des femmes avec des enfants. On retrouve des jeunes en errance, très souvent des jeunes en rupture familiale, en rupture également des structures donc, de protection de l'enfance qui les prenaient en charge jusqu'à la majorité. Dans la rue, on trouve aussi des personnes réfugiées sur le territoire français. Donc, tout un tas d'itinéraires, de profils, de trajectoires qui se retrouvent effectivement dans l'espace public. L'accompagnement est forcément personnalisé. Des personnes qui sont depuis longtemps dans la rue. Alors, rares aujourd'hui à Nancy, c'était pas le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui sont complètement sédentarisées dans la rue. Bien souvent, il y a des allers-retours, foyers, des amis. Donc, c'est des itinéraires, on va dire, un petit peu... comment je pourrais dire, brisé, cassé et pas forcément rectiligne. Donc l'accompagnement doit être effectivement individualisé. On a souvent également tendance à penser, quelqu'un qui n'a pas d'hébergement, il suffit de lui en trouver un. Sauf que c'est pas nécessairement suffisant. Ça nécessite, au-delà des quatre murs, parce qu'un appartement c'est jamais quatre murs, de travailler effectivement sur ce que souhaite la personne, essayer peut-être de l'amener à certains changements, accepter aussi des contraintes et la solitude, parce que la vie en société, avoir un appartement et quelque part travailler, certes c'est des choses qui sont socialement valorisées, mais ça amène aussi son lot de contraintes. Donc quelque part, il y a ça aussi parmi les personnes qu'on accompagne, qui souhaitent tous un appartement à travail. Dans les faits, c'est bien évidemment beaucoup moins simple.
Alors, parce que tu l'as évoqué, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir des dépendances, il peut y avoir aussi une recherche, une quête, tout simplement, fragilité, un déséquilibre.
Oui, fragilité, déséquilibre. Après, c'est difficile de trouver les causes et les conséquences. Il y a certaines personnes qui revendiquent un choix de vie.
Ça, c'est une part importante ?
Non, c'est pas une part importante. Et puis, il y a ce que les personnes disent quand on les interroge comme ça, de but en blanc, et puis il y a, d'une certaine manière, la réalité vécue. Je crois que même dans la rue, ce que souhaitent ces personnes, c'est conserver un contrôle sur leur vie. Donc, le contrôle de leur vie, ça passe aussi, d'une certaine manière, par revendiquer ce qu'on fait et le droit de le faire. Donc, c'est pas simple. Donc, le choix, c'est difficile quand même, effectivement, à percevoir et à évaluer. Il y a les problèmes, t'en parlais, forcément, donc d'addiction et puis de chute, enfin de ne pouvoir continuer à avoir une vie sociale, de pouvoir avoir un emploi, une famille. Donc oui, il y a aussi des profils de ce type-là dans la rue. Et il arrive un moment entre, je dirais, les effets que peuvent entraîner une addiction aux drogues et les effets de la vie dans la rue. On ne sait plus trop quelle est la cause et la conséquence de tout ça. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Bien sûr que si, Rémi, merci. Parce que, qu'on prenne un peu le temps de rentrer, parce que le ras-le-bol du SDF dans la rue, qu'on peut entendre de temps en temps, et qu'on peut même éventuellement comprendre et essayer de voir ses motivations, il renvoie vers une société qui est la nôtre dans laquelle on vit. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la société pour répondre à ces problématiques-là ? Vous êtes sur Nancy, accueil. L'association Accueil et Réinsertion Sociale, la réponse, et pourtant vous êtes une association. Vous l'avez rappelé, puisque vous avez changé votre nom, enfin plus exactement, vous avez rajouté un A, le premier A, Association Accueil et Réinsertion Sociale, dans votre logo, voilà. Vous n'êtes qu'une association, et pourtant vous êtes le bras pas armé, on va dire, mais armé de fraternité, le bras armé de fraternité et de solidarité de la société pour aller à la rencontre et accompagner les personnes qui vivent dans la rue. Aujourd'hui, cette responsabilité, comment on peut essayer de la partager? Comment vous menez des actions pour essayer de la partager, pour être accompagné, entouré vous-même, pour faire ce travail-là? Parce que c'est votre responsabilité. Pardon, mais ce n'est pas que à Lars de le poser et à Rémi Bernard de le porter sur ses petites épaules avec toutes ces équipes dont on va parler.
Oui, non, mais effectivement, ce n'est pas que nous. On a notre part, forcément, donc, du travail, puisque quelque part, on est missionné pour. Certes, c'est une association importante. Cela étant, c'est
combien de salariés juste pour
350.
Combien de personnes accueillies selon les modes d'hébergement
en simultané, ça fait à peu près 3000 personnes en simultané. Hein.
Et avec un plan grand froid qui vient renforcer une capacité d'accueil, on arrive à accueillir combien de personnes
On en accueille parce qu'on en héberge quand même effectivement pas mal. Ouais. Nancy n'a rien à voir avec Paris. Hein. On a accueilli. Dans le cadre de la mise à l'abri d'urgence, il y a une trentaine de personnes en plus qui étaient dans la rue. Donc, voilà. Donc, non, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, on a un certain nombre d'outils, entre guillemets, de dispositifs différents, d'hébergement, des dispositifs d'hébergement différenciés, parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'une question de mur, je le rappelle, mais il y a des accompagnements différents. On essaie aussi d'offrir des cadres d'accompagnement et de vie en fonction des problématiques. On n'accueille pas une mère avec un enfant qui était victime de violences conjugales n'importe où, et au milieu, je dirais, de tout un tas de personnes, puisque la première chose qu'elle va chercher, c'est la sécurité. Donc on se doit d'avoir des interventions et des accompagnements qui sont différents, qui vont de la santé jusqu'à l'emploi, donc tout un champ important, et un continuum important, de la rue jusqu'effectivement donc à une insertion sociale et professionnelle.
On va le voir dans quelques instants avec toi Rémi, on peut dire que tu as quelques heures de vol quand même dans le domaine, et si aujourd'hui tu devais identifier un besoin pour, pas forcément la structure ARS, mais pour répondre à la mission aujourd'hui, un besoin qui te semble peut-être prioritaire aujourd'hui, sur lequel il faudrait que les acteurs publics et politiques, mais aussi les individus, les structures syndicales, le patronat, les structures qui font les forces vives de la société, puissent un petit peu se pencher pour relever le défi, je ne vais pas dire fraternel, mais républicain, de la grande pauvreté aujourd'hui. Ça serait sur quoi qu'il faudrait peut-être un peu s'interroger.
Je pense qu'effectivement, il y a un tas de choses qu'on a perdues en route. Très clairement, revenir aux fondamentaux de la République, oui, première chose. Ce qui a fait de la société française, effectivement, ce qu'elle a pu être en termes de collectif, de référence commune. Je veux dire, la déclaration des droits de l'homme, c'est en France. Donc c'est des choses qui sont importantes, qu'on a, à mon avis, oubliées. La cohésion nationale également. Donc ça veut dire effectivement ne pas laisser des personnes sur le bord de la route. Donc peut-être, c'est, je pense, ce qui manque aujourd'hui, un discours politique qui offre, je dirais, un avenir, qui essaye de remettre du liant et du ciment pour le vivre ensemble. Donc c'est des éléments comme ça, qui, c'est peut-être un peu idéaliste, mais en tout cas c'est des éléments comme ça qui sont importants. De manière plus pragmatique, hein, puisque mon travail, c'est effectivement pas que dans l'idéal. Bien évidemment, il y a des questions de répartition des richesses, donc des budgets pour notre secteur. Donc, bien évidemment, il y a des problèmes aujourd'hui donc, dans nos métiers, les métiers de l'accompagnement, les métiers du soin, les difficultés d'attractivité, de recrutement. Donc, derrière, il y a, je dirais, effectivement, donc, toutes ces dimensions. Mais avant tout, peut-être, oui, une forme d'idéal et de projection, oui.
Ben, dites donc, jeunes gens, on n'en a pas eu longtemps, mais c'est quand même un peu l'habitude dans I Feel Good. Hein. Ibrahim Malouf avec True Story.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Salut Rémi, merci. C'est
merci à toi.
Parce que c'est vraiment waouh, waouh, waouh. Et puis un petit coup de musique qui va bien, ça fait du bien. On accueille aussi Camille et Ludovic dans l'émission qui sont deux stagiaires de la radio. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à faire signe si vous voulez interroger notre invité. Rémi, on a pris le temps d'aller à la rencontre, pas que de la structure, mais aussi d'abord et avant tout d'hommes et de femmes, de ce que l'on peut voir. Pour ceux qui veulent aussi poursuivre un peu, aller rechercher dans les réseaux sociaux, Laurent et Stéphane avec Gabou, qu'on avait interviewé, il y avait deux émissions qu'on avait faites avec eux. Laurent et Stéphane qui racontent leur parcours emprunt bah, de problématiques de santé, de justice, de, voilà. Ils le disent, ils le partagent, et en même temps, on peut aller loin. Et puis, l'extraordinaire expérience avec Gabou. Alors moi, j'ai été beaucoup touché par ce village qui a été mis en place, cette expression artistique qui est allée chercher. Pourquoi soutenir de tels projets selon la vision de Rémi, le DG ?
Il y a des personnes, on évoquait les gens dans la rue, les personnes qu'on a accueillies dans ce village, c'était des personnes très très marginalisées. Personnes pour lesquelles, effectivement, logement, emploi, en première intention, c'est pas forcément leur priorité et c'est pas forcément, je dirais, ce qu'il faut calquer. On a essayé de monter cette expérience, ce projet, effectivement, en essayant de trouver des supports qui leur fassent vivre d'autres choses, qui les fassent un peu s'aimer, entre guillemets. La culture est, de fait, le média principal ou l'un des médias qui peut apporter et aider à ça. Voilà, c'est pas qu'une dimension sociale. Elle a fait, donc, Daniel Gabou et son équipe, ils ont fait un travail remarquable, avec, encore une fois, des personnes passées, trajectoires très compliquées, et je dirais qui ont des codes relationnels peu différents, certains d'ailleurs consommateurs également de produits toxiques, donc c'était un pari qui était loin d'être gagné. Mais la personnalité de Gabou a fait que, bien évidemment, ça a matché, quoi.
Extraordinaire. Allez, Rémi. Rémi, allez. Trois dates importantes dans ta vie. Alors, les trois sont sacrément sérieuses. Allez, on va faire celle qui fait le lien avec l'émission. Au 1er février 99, c'est l'entrée à l'Arche.
Oui, 1er février 99, l'entrée à l'Arche, je m'en rappelle. Je pensais que ça allait durer que quelques années. Ça va faire 26 ans dans 10 jours. Donc c'est une tranche de vie importante. De fait, ça marque une vie professionnelle, surtout dans une association comme l'ARS. Mais je me rappelle effectivement de mon arrivée, qui fait sourire d'ailleurs les jeunes cadres aujourd'hui, parce que quand je suis arrivé, j'avais pas de bureau, il a fallu que j'aille m'en acheter un. J'allais chercher effectivement un tournevis à l'atelier pour me monter mon bureau. Donc des conditions de prise de poste aujourd'hui qui font qui font sourire quoi.
Sourire, voilà, c'est ça.
Et puis ensuite j'ai eu des opportunités à l'intérieur de l'association chaque fois que j'avais des velléités de départ. Et puis de cadre, chef de service sur un établissement, direction générale effectivement depuis 2019.
Alors avant d'arriver à l'ARS, Rémi l'a grandi où?
Alors, Rémi, professionnellement, avant d'arriver à l'ARS, il a travaillé dans un service qui s'appelait l'UFAT, un centre de soins pour toxicomanes. Et je dois dire que pendant 9 ans, je crois à peu près, 8 ou 9 ans, c'est là où j'ai appris réellement mon métier, oui.
Et le métier, tu l'as appris où? Tu as grandi où, Rémi? Tu viens d'où?
Où je suis né?
Ouais.
Oula, on va loin, là, Dijon. Ouais.
Dijon, donc, d'accord, okay, Côte d'Or.
Côte
et
d'Or.
Le choix de ce métier-là, il est venu...
Le choix de ce métier-là, faut que je fasse très très court, j'imagine. Lycée, et puis étudiant, donc un peu après le lycée. Il est venu non pas par le souhait d'aider l'autre ou des références comme ça, mais plus, j'ai commencé des études de psycho, donc un intérêt pour l'autre, pour les trajectoires de vie, pour essayer de comprendre effectivement les accidents de la vie, comment les gens les vivaient, les surmontaient, les surmontaient pas, la question des souffrances, donc toutes ces questions-là qui touchent à l'humain m'intéressaient. C'est par ce biais-là que je suis rentré effectivement dans le travail social.
D'où l'introduction un peu longue dans cette émission, mais qu'on comprend, c'est cette question de sens qui...
Oui.
On comprend un peu mieux maintenant, on terminera peut-être d'ailleurs un peu là-dessus, je pense, cette émission. Deuxième date importante dans ta vie, un changement de statut, 31 juillet 96.
31 juillet 96, 5 heures du matin.
Ah oui.
La naissance de ma fille. Donc là, une date personnelle. Mais une date de fait plus qu'importante, essentielle. D'une minute à l'autre, on sait qu'on ne vivra plus jamais de la même manière. On sait que là, on est responsable effectivement d'autres personnes que de soi-même. On sait qu'on va devoir, assumer les choses, qu'on va être, pourquoi pas... questionner sur des choix qu'on pourrait faire par sa propre fille. Date importante, la naissance de ma fille, oui, Faustine.
Et donc il y a presque un bout de fragilité dans ce passage dans ce changement de statut. On quitte un monde un peu connu pour se décentrer déjà. Et aller dans des zones où, justement, la responsabilité devrait t'appeler à être un rock.
Eh oui.
Et pourtant, il y a un questionnement. Ça doit être le psychique.
Il y a toujours un questionnement, bien sûr. En tout cas, chez moi, bien sûr.
Est-ce que, quand on regarde la société, j'en profite, hein, puisqu'on s'est fait un peu plaisir dès le début, mais est-ce que, quand on regarde l'évolution de la société, de la natalité dans les pays occidentaux, avec beaucoup de remises en question, une évolution à la baisse, est-ce que ce choc de décentrage peut-il avoir un parallélisme avec ce que tu évoquais tout au début de l'émission, à savoir la grande pauvreté intéresse moins, enfin l'autre intéresse moins, le vivre ensemble intéresse moins. Est-ce possible ou est-ce vraiment du n'importe quoi ce que le questionnement qu'on peut se dire et puis faisons une part des choses.
Difficile ta question.
Ouais.
Très difficile.
Et toi, t'aimerais répondre quoi?
Oui, le questionnement, je pense, il est important d'une manière générale, dans sa vie personnelle par rapport à nos proches et au niveau de l'ensemble de la société. Questionnement veut dire aussi, parce que les choses sont compliquées, j'y peux rien, personne n'y peut rien, c'est comme ça. Les problèmes sont, il y a des situations qui sont compliquées. Et il faut avoir, je pense, le sens de la nuance. Ne pas céder à des discours, ne pas céder à des théories simplistes. Encore une fois, c'est valable dans sa vie personnelle, dans le développement de sa vie personnelle, et effectivement, d'une manière générale, quand on vit en société. Non, les choses ne sont pas simples. Donc oui, c'est important de se questionner. C'est important aussi qu'on ait des personnes, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui posent la complexité de ce qui se passe, qui posent la complexité des choses, et qui ne se contentent pas d'incantations ou de choses simples, comme le débat politique actuel.
Et oui. Toi, où est-ce que tu vas chercher ces lieux où tu peux poser la complexité, en débattre? Est-ce que c'est dans tes équipes à l'ARS?
Mon travail me permet ça, oui. Avec un certain nombre de collègues, donc mon travail me permet ça. La lecture aussi.
T'es un gros lecteur?
Gros, non. Plus je l'ai été. Maintenant, moins. Mais en tout cas, oui, lecture et puis les débats, les échanges, forcément autour de mon travail, oui. Mais qui amène, de fait, à ce type de questionnement.
Ce qui nous arrive et nous amène à une troisième date importante dans ta vie, elle apparaît vraiment comme une évidence, celle-ci. Là encore, elle est dans le tragique, elle est dans le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo.
Les attentats de Charlie Hebdo. Oui, ça va dans le sens de mes propos depuis le début de l'émission. Stupeur, horreur, liberté d'expression, donc largement entamée. Charlie Hebdo... satire de toutes les religions, donc qui repose bien évidemment la question du vivre ensemble, la question de la laïcité. On n'a pas tiré parti, on n'a pas tiré les leçons très clairement de ces attentats, de ce qui aurait pu être fait après, justement pour renforcer nos principes républicains, pour garantir la liberté de chacun, parce que très clairement ce sont des principes qui ne sont pas là pour bloquer la liberté de chacun, mais qui permettent que toutes les libertés puissent coexister. On n'a pas tiré les leçons de ça. Et on le voit, il y a des choses qui continuent. La séparation des églises et de l'État, je pense que c'est quelque chose effectivement qui est également important.
Dans cette perspective-là, avez organisé justement...
En plus de ça, je terminerai un peu là-dessus, si on prend encore un petit peu plus de hauteur, je pense que la démocratie française, la République française, je pense que les démocraties européennes ont aussi des choses à défendre, des choses à faire valoir, surtout en ce moment. Monsieur Trump aux États-Unis, Monsieur Poutine en Russie, la Chine... monde très clairement, la Corée. Donc l'évolution du monde, on y assiste. Et l'impression qu'on a, c'est que collectivement, au niveau de l'Europe et au niveau de la France en particulier, on est peut-être un peu trop confiant, en tout cas pas suffisamment en alerte par rapport à tout ça.
Mais pour rester dans les feel good, concrètement, en novembre, par exemple, vous aviez lancé une opération, mais il te reste 20 secondes pour en parler.
Ouais, 20 secondes, oui. On a voulu réaffirmer ces principes à l'intérieur de l'ARS, tout à fait. Ça a été très compliqué, très mal compris, et encore une fois, ça a été regardé depuis l'extérieur, notamment par un certain nombre de médias, absolument pas dans la nuance et de manière très caricaturale.
Ta volonté, c'était ?
De réaffirmer effectivement ce principe de laïcité et de neutralité dans nos missions d'aide aux personnes.
Et ça, c'est encore l'objet de toute autre émission. Merci Rémi d'être
venu. Merci à toi pour ton invitation.
C'est vraiment
c'était
sympa,
un plaisir.
Ouais, partagé, en tout cas, je peux t'assurer. Merci à Jean-Luc pour la réalisation. Et puis un petit hommage à celui qui a créé l'ARS, c'est M. Pierre Vivier. On porte bien son nom. Hein. On parlait de Pierre et on parlait de vie tout à l'heure. Il portait bien son nom. Pierre Vivier, hommage à lui. Et une grosse bise à son épouse. Come on.